Voici une nouvelle aventure au cœur des archives d'Europe 1. Elle va se dérouler au cœur de l'année 1986. Les réjouissances de ce premier épisode, Jean-Louis Etienne au Pôle Nord, le Paris-Dakar qui emporte Daniel Balavoine, Nanar qui débarque à l'OM, Jeanne Calment, doyenne des Français, et l'incroyable succès de Stéphanie de Monaco.
1986, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1986, Jean-Louis Etienne, médecin explorateur, a un rêve. Il veut être le premier homme à atteindre le pôle Nord à pied, sans aucune assistance.
L'obstiné Jean-Louis Etienne reprend une expérience qui avait échoué l'an dernier. Vous êtes en route, enfin vous êtes prêt à être en route, Jean-Louis, et vous allez tout nous raconter. Où êtes-vous ?
En ce moment, je suis donc à Resolute Bay, c'est-à-dire dans le Grand Nord canadien, c'est au-delà du cercle polaire arctique, qui est mon camp de base, qui est le point de départ de mon expédition au pôle Nord. De là, je vais être transporté tout à fait à l'extrême nord du Canada, c'est-à-dire les terres les plus au nord, dès demain, où je serai déposé sur la banquise pour partir vers le pôle Nord.
Jean-Louis Etienne est un sacré bonhomme. Gamin, c'était un mauvais élève. Et donc, il a quitté l'école avec un CAP de tourneur-fraiseur. Mais il est retourné aux études, il a charbonné et il est devenu médecin. Son volontarisme peut expliquer son défi fou, parcourir 800 km par moins 40 degrés.
Oui, j'ai 800 km à faire, c'est la distance qu'il y a à parcourir entre l'extrême point de terre qui est au nord du Canada. Il faut savoir que le pôle Nord est au milieu d'un océan, au milieu de la banquise, donc il faut marcher sur l'océan gelé. Et les 800 km représentent la distance qu'il y a entre l'extrême nord du Canada et ce point immatériel qui est l'axe de rotation de la Terre. Ça paraît effectivement un peu fou parce que c'est un point qui est difficile à atteindre parce que c'est pas une patinoire, la banquise est très abîmée et les conditions sont très difficiles. Mais si vous voulez, le challenge est intéressant parce que c'est un point virtuel qui fait rêver, qui m'attire depuis toujours.
Le périple de Jean-Louis Etienne doit durer une soixantaine de jours. Et son secret pour tenir, eh bien, c'est la routine.
Bon, ma journée consiste essentiellement à tirer mon traîneau. Je le tire entre 8 et 10 heures par jour. Je me lève le matin au début avec les premières lueurs du jour. J'ai un petit déjeuner, je défais mon camp et puis je tire mon attelage. Ça dure 8-10 heures. Et le soir, je recommence à remonter ma tente et repasser une nuit.
Quel sera, Jean-Louis, votre régime alimentaire ?
Mon régime alimentaire est très étudié pour l'effort, c'est 4000 calories par jour qui sont rassemblées dans un paquet que j'ai, un paquet journalier d'un kilogramme, et ces 4000 calories sont réparties tout à fait pour être équilibrées pour l'effort. Ça consiste donc à faire fondre la glace et mettre l'eau de fonte qui est bouillante sur mes aliments. Et ça, je le fais trois fois par jour, un le matin, un midi et un le soir.
Imaginez, Jean-Louis Etienne part sans téléphone satellite et sans GPS. Tout ça n'existe pas en 1986.
La boussole, là où vous êtes, c'est pas tellement utilisable, étant donné que vous êtes dans une zone très magnétique. Comment vous faites pour trouver le nord ?
Ma seule façon de me diriger, c'est au soleil. Et Matran Langerie m'a fait une montre spéciale qui fait un tour à 24 heures. C'est-à-dire que la seule aiguille du milieu du 4 ans, tourne à la vitesse du soleil autour de la Terre. Donc je mets cette aiguille dans l'axe du soleil et le 24 dans le nord. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais ma travailleuse a fait une merveilleuse montre qui est en titane, extrêmement légère et qui est mon instrument essentiel de navigation.
Après un périple de 63 jours, le Centre National d'Études Spatiales annonce la bonne nouvelle. La balise Argos emportée par Jean-Louis Etienne bip sur l'axe de rotation de la Terre. Il a réussi.
C'est maintenant officiel, Jean-Louis Etienne a atteint le pôle Nord géographique. Jean-Louis Etienne a les deux skis sur le pôle. Si vous voulez une image, en ce moment la Terre tourne sous ses pieds et il reste immobile. C'est le seul être vivant à occuper cette situation extraordinaire. Plus sérieusement, il cherche en ce moment un terrain où pourrait atterrir l'avion qui doit venir le chercher, qui doit venir, mais quand, personne ne le sait, car le pôle est en ce moment couvert de brouillard.
Trois jours plus tard, l'avion peut enfin se poser. Et l'un des proches raconte sur Europe 1 comment une équipe est venue récupérer l'explorateur.
L'avion a pu se poser sans problème, sauf que le terrain était un petit peu bosselé, ils ont été un peu secoués, mais ils avaient repéré la tente de Jean-Louis Etienne, ils se sont posés tout à côté, et évidemment, ils étaient tous très émus, ils se sont serrés dans les bras les uns des autres pendant un long moment. Et puis voilà, hein, le temps de prendre quelques photos, de sabler le champagne, de planter le drapeau français, et ils sont repartis tout de suite. Il est très fatigué, apparemment là il est en train de dormir dans l'avion.
Une fois rentré à son camp de base canadien, Europe 1 parvient à joindre Jean-Louis Étienne.
Le moment le plus dur, je dirais que c'est quand vous sentez la fin qui s'approche, que le pôle Nord s'approche, et vous avez l'impression qu'il vous échappe, parce que j'avais 7 jours de mauvais temps, la dérive contre moi, et c'est ma progression la plus lente vers la fin, et j'avais l'impression qu'avoir passé 2 mois là-dessus, j'allais pas avoir ma récompense finale, donc ça c'était très pénible. Mais écoutez, maintenant c'est fini, et puis bravo, quoi, je suis rassuré, je suis content, et puis maintenant il faut que je le repose.
Est-ce que vous avez réalisé votre exploit?
Oh, j'ai encore rien réalisé. Je l'ai même complètement oublié. Je vous dis, je viens de changer complètement de vie. Là, je suis dans une pièce avec le téléphone et puis vous. Donc, je viens de changer complètement d'autre chose. Si bien que ça a un peu gommé tout ce qui vient de passer pendant 2 mois. Et là, j'ai besoin un peu d'assimiler tout ça, de me reposer pour de nouveau profiter.
C'était Voyage, Voyage, interprété par Claudie Fritsch, plus connu sous le pseudonyme de Désirless. Titre d'ailleurs qui était au départ destiné à Michel Delpech, qui l'a refusé. Et Désirless vendra 1,5 million d'exemplaires de ce Voyage, Voyage.
1986, Ondelat raconte sur Europe 1.
En janvier 1986, se déroule la 8e édition du Paris-Dakar. Ce rallye automobile qui traverse le Sahara et qui est organisé et pensé par l'aventurier Thierry Sabine. La 2e semaine de course, lors de l'étape de Gourma au Mali, la course est foudroyée par un drame.
À l'arrivée de la 2e spéciale, il fait nuit, un concurrent, le numéro 347, Charles Belvez, arrive bouleversé. J'ai vu, dit-il, les feux de position d'un hélicoptère passer au-dessus de ma voiture. J'ai ensuite entendu un grand bruit, je me suis arrêté, j'ai vu des débris. Aussitôt, nous remontons la piste en sens inverse avec le témoin. Au kilomètre 11, à 50 mètres à droite de cette piste, au sommet d'une dune, nous découvrons dans nos phares les débris d'un hélicoptère. L'appareil a volé en éclats et autour, 5 corps désarticulés. Celui de Daniel Balavoine, du pilote, du radio Jean-Paul Le Fur. Plus loin, ce sont encore 2 autres cadavres, celui de Thierry Sabine et de Nathalie Oden, journaliste au Journal du Dimanche. C'était son premier Dakar. Apparemment, ils ont été tués sur le coup. L'hélicoptère n'a pas brûlé. Il s'est simplement disloqué en heurtant une dune d'une trentaine de mètres de haut, le seul relief après 150 km de plat. Dans la nuit, les 5 corps ont été ramenés au dispensaire du village sur les bords du Niger. Gourma Raout, Gérard Joigny, Europe 1.
Le pilote François-Xavier Bagnou avait 24 ans. L'organisateur du rallye Thierry Sabine, 36 ans. Le chanteur Daniel Balavoine, 33 ans. La journaliste du Journal de Dimanche, Nathalie Audan, 25 ans. Et le technicien radio de RTL, Jean-Paul Le Fur, 36 ans. Le crash de l'hélicoptère s'est produit de nuit. L'engin a été pris dans une tempête de sable. Mais pourquoi diable cet hélico a-t-il décollé malgré les mauvaises conditions météo? Gérard Fusy d'Europe 1 apporte un début d'explication.
Disons que nous respections toujours certaines sécurités. Pour ce qui est de Thierry, eh bien, il reculait bien souvent les limites de sécurité car il avait un devoir, c'était de faire marcher son rallye, de retrouver les concurrents quand ils étaient un peu égarés, de s'occuper de tout. Alors bien sûr, quelquefois, il prenait quelques risques, il le savait. Il essayait d'en prendre le moins possible. D'ailleurs, depuis quelques années, il était devenu un petit peu plus raisonnable. Il avait vraiment trop le goût du risque autrefois. Et j'avais remarqué, notamment lors des reconnaissances que je faisais avec lui sur le Paris-Dakar, qu'il prenait beaucoup plus de précautions. Mais là, hier soir, effectivement, on peut parler d'un risque un petit peu supérieur au risque habituel. Il faisait noir, il y avait du vent de sable. Comme il n'était pas loin du bivouac, il était à une vingtaine de kilomètres du bivouac quand la nuit est tombée, il s'est arrêté une première fois. Et puis, il a décidé quand même de repartir après avoir hésité, après avoir pensé faire venir une voiture pour venir le chercher. Ils sont quand même repartis. Il avait un excellent pilote et bien sûr, il y a eu quelque chose qu'il n'avait pas prévu.
Daniel Balavoine se trouvait dans cet hélicoptère parce qu'il participait à une action humanitaire aux côtés de Thierry Sabine.
Daniel Balavoine était là parce qu'il était devenu un très grand ami de Thierry Sabine et qu'il avait décidé de l'aider dans son action Paris-Dakar, Paris du Cœur pour distribuer des pompes dans le Sahel. Et Daniel Balavoine défendait toujours l'action de Thierry car il savait qu'elle était très sincère et qu'elle était efficace et bien menée. Daniel Balavoine devait remonter ces jours-ci sur Paris, il n'avait normalement pas le temps de continuer. Et puis finalement, comme Thierry avait besoin d'un coup de main, qu'il y avait des petits problèmes avec les camions qui transportent des pompes, il avait décidé de prolonger un peu son séjour ici.
15 jours avant l'accident, Daniel Balavoine était chez Michel Drucker, sur Europe 1, et il expliquait son engagement pour l'Afrique.
Je vais en Afrique pour faire un certain nombre de choses, cumuler, on va partir avec des camions, déposer un certain nombre de choses là-bas pour une opération qui a été, dont l'idée est venue de Thierry Sabine et dont on s'occupe maintenant, et puis pour une autre opération qui s'appelle Action École.
Pour l'Éthiopie.
L'Éthiopie, non, c'est pas. On dit toujours l'Éthiopie, c'est pour l'Afrique, c'est pour les pays sahéliens. Et puis voilà, il y a Michel Berger, France Gall qui sont aussi là-dedans, Richard Berry, Christine O'Krent. Il y a plein de gens pour cette opération école, et moi je serai en Afrique et je ferai en fait des reportages là-bas pour les écoliers en France.
Michel Drucker, du coup, réagit à chaud à l'annonce de l'accident.
C'est fou ce qui est arrivé. Enfin, c'est dans les jours et les mois qui viendront qu'on va s'apercevoir à quel point la présence de Daniel manquera. Accident d'hélicoptère, il était parti. Lui, il n'était pas parti pour, j'allais dire, il est parti pour la bonne cause. Il était parti pour aider les populations. Il n'était pas parti disputer le rallye. C'est une tragédie qui nous laisse un petit peu muets d'émotion. Parce que Daniel, je le dis et je le répète, avait une présence, un charisme. Il prenait de la place, hein, Daniel. Hein. Quand il parlait, on l'entendait. C'était quelqu'un qui occupait une place particulière dans notre univers. Et moi, en tant que journaliste et homme de radio, de télévision, je dois dire que Daniel est quelqu'un qui nous a laissé que des souvenirs exceptionnels.
Et vous, Renaud, vous l'avez appris aussi en même temps que nous, pratiquement.
Oui, c'est pareil. Comme Michel, on est muet. Moi, je suis planté. Je suis pas balèze pour les hommages à chaud comme ça, au moment où on prend cette baffe en pleine gueule, je veux dire, la vie qu'on vit, nous, je veux dire, dans ce pays, dans ce monde, assez privilégié en tant qu'artiste, en tout cas, on est heureux, puis de temps en temps, on prend des coups de poignard dans le cœur, comme ça, qui laissent des cicatrices qui refermeront jamais, quoi, je veux dire. Et je pense à la phrase de Frédéric Dard, quand il a perdu quelqu'un qui lui était cher, il avait dit « Si j'avais su que je l'aimais tellement, je l'aurais aimé davantage. »
Dans nos archives, j'ai retrouvé cet enregistrement qui n'a jamais été rediffusé. 2 jours après le décès du chanteur, une fillette lit un poème en hommage à Daniel Balavoine. C'est bouleversant.
Pendant quelques jours, Daniel Balavoine sera servi à toutes les sauces, affublé de qualités qu'il se défendait d'avoir, d'une franchise qu'il honorait après avoir dérangé. Et à coups d'imparfaits injurieux, de détails impudiques et de larmes artificielles, ils banaliseront l'artiste, détruiront le mythe, effaceront la trace, instaureront l'indifférence. Pourtant, je n'oublierai jamais que cette voix aiguë et cassée, qui à tout jamais est sienne, fut l'écho de ces idées gênantes et pleines de vérité qui désormais sont miennes. Je souhaite que cet homme qui voulait mourir pauvre pour ne rien regretter entre par la grande porte, quelle que soit sa destination. Encore un immense merci à lui qui m'a appris à dire ce que je pense et même à l'écrire.
Partir effacé sur le Gange, la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange. Un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur.
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour?
Et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Oh, où est le sauveur? Oh, oh. Et chaque nuit le peuple danse en douceur, croit qu'il peut exorciser la douleur, puis lentement quitte les transes en douceur. Alors reviens dans sa conscience, la douleur au fond de lui sans cette peur immense de voir mourir ce sentiment d'amour intense.
C'était Daniel Balavoine avec son tube « Sauver l'amour », titre qui paraît en single après la mort de Balavoine et qui se vendra à 350 000 exemplaires.
1986, Ondelat raconte sur Europe 1.
En janvier 1986, Bernard Tapie reprend les rênes de l'Olympique de Marseille. Le fringant chef d'entreprise veut redonner le lustre d'antan à cette équipe. Et il débarque avec Michel Hidalgo comme entraîneur. Une pointure. 2 ans auparavant, il a mené la France à la victoire dans l'Euro 84.
Mais alors Tapie, qu'est-ce qui vous fait courir comme ça partout, sur le cyclisme, sur le football, sur le sport, sur les affaires?
Parce que la vie est faite de plein de sensations, de plein de passions, et que moi j'en ai dans le sport, j'en ai dans la musique et j'en ai dans les affaires. Bon, ben voilà. Et puis parce que en fait aussi, vous le savez, je m'entoure toujours en général des gens qui me semblent être les plus compétents pour y arriver. Michel, on ne peut pas faire beaucoup mieux, hein. Il a été demandé par tous les pays du monde, par presque tous les grands clubs, et je dirais que ce qui m'émeut beaucoup, c'est de savoir que j'étais le seul à qui il a dit oui.
Les supporters marseillais sont ravis de voir arriver cet homme charismatique qui peut ramener la gloire sur la canebière.
Je pense que c'est une très bonne chose pour l'OM et pour Marseille, pour la région, et pour nos supporters surtout. Parce que nous étions un peu dans le creux de la vague et je pense que ça va un peu remonter les actions.
Et vous, monsieur?
Ben moi, je pense que pour l'OM, c'est un club indispensable premièrement au football, parce qu'il a ses cartes de visite très importantes. Quand vous allez n'importe où à l'étranger, quand vous dites Marseille, on vous dit de suite l'OM, comme on disait, c'est Étienne. Quand l'OM a une bonne équipe, vous voyez toute la région descendre pour le match. C'est le seul club en France susceptible de faire des grosses recettes, même mieux que Paris.
Vous pensez que c'est ce que peuvent apporter Bernard Tapie et Michel Hidalgo?
Incontestablement. Quand on vous porte d'un côté, on vous porte l'argent, et de l'autre côté, on vous porte l'expérience.
Vous voyez l'OM européen bientôt?
Pas du jour au lendemain quand même. Mais enfin, je pense que l'OM ne tardera pas à être européen.
Tapie, qui est réputé à l'époque pour redresser des entreprises en difficulté, débarque dans le football armé de sa grande gueule. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Dans le foot français, il trouve du répondant en la personne de Claude Béze, le charismatique président des Girondins de Bordeaux.
Je m'amuse de voir ces grandes, l'économie, qui s'amuse à licencier dans des secteurs et à investir dans le football. Alors je préfère être à ma place mon club que de voir certaines personnes venir mettre des milliards qu'ils ne mettent pas dans les usines qu'ils dirigent.
Si je vous comprends bien, vous n'aimez pas Bernard Tapie.
Tapie, c'est un charlatan. C'est un monsieur qui qui vit sur le dos de la communauté, c'est-à-dire ça fait partie de ces charognards qui vivent grâce aux entreprises en difficulté, avec quelques réussites pour le moment. Mais il ne m'impressionne absolument pas.
Ce qui énerve le président de Bordeaux, Claude Bèze, c'est que pour monter sa grande équipe, Bernard Tapie veut lui piquer des joueurs. Et ça le rend furieux.
Tapie charlatan dans la bouche de Claude Bèze, cela veut dire que c'est la guerre.
Non, ce n'est pas la guerre, c'est parce qu'il peut continuer, parce qu'il va continuer, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il peut me prendre quelques joueurs et il réussira, certainement. Le problème il n'est pas là, mais je ne suis pas surpris.
Trois jours après avoir été insulté, Bernard Tapie porte plainte pour diffamation contre Claude Bèze.
C'est la justice qui décidera ce qu'on doit faire à quelqu'un qui insulte les autres. Et puis voilà, c'est tout. Moi, ça m'intéresse plus de savoir comment les gens réagissent sur ce sujet-là.
Il est rare que vous alliez en justice, Bernard Tapie, que vous portiez plainte en diffamation. Il y a déjà eu pas mal d'attaques, mais à chaque fois, vous avez laissé couler. Là, vous réagissez.
Non, mais j'ai toujours laissé couler parce que les gens dans les attaques ont quand même toujours eu le sens de la mesure. Et là, c'est pas le cas. Par conséquent, j'ai estimé, enfin, c'est surtout autour de moi, on a estimé qu'il fallait pas que je le laisse comme ça.
Et 6 mois plus tard, Bernard Tapie chip à Claude Bèze son meilleur joueur, Alain Giresse.
Une folle journée. Jusqu'au tout dernier moment, en effet, Alain Giresse a hésité à quitter Bordeaux. Les offres de Bernard Tapie concernant sa situation dans l'après-football, ajoutées à l'absence de garantie des Girondins sur son avenir, voilà ce qui a fait véritablement basculer son choix. 22 ans dans le même club, un profond enracinement dans son village d'Aux, dans la campagne girondine. Jamais on n'aurait pu penser que Gigi, comme on l'appelle dans le monde du football, allait un jour quitter les bords de la Garonne pour se retrouver sur la Canebière. Les Girondins avec lesquels il a tout connu n'ont pas su ou pas voulu le retenir. Des relations devenant tendues avec le président Claude Bèze, tout cela a précipité le choix d'Alain Giresse, lui qui se voyait il y a encore une semaine finir sa carrière paisiblement sous le maillot marine et blanc. Et puis Bernard Tapie est arrivé. Jeudi soir, entrevue à Bordeaux dans la foulée, Alain Giresse rencontre Claude Bèze. Les choses ne se passent pas très bien. Et hier au soir, la décision.
Le départ de Gigi, l'enfant du pays, est un crève-cœur pour les Bordelais.
Nous sommes très tristes parce que nous l'aimions beaucoup. Joli garçon, très simple, extrêmement agréable. Bon joueur, bien entendu, ce qui ne gâte rien puisque c'est l'essentiel. Mais enfin, nous le regrettons. Il a raison quand même. C'est la vie, il faut changer.
Vous pensiez un jour qu'il quitterait Bordeaux ?
Jamais.
Bon, moi, ça me fait pas plaisir, non ? C'est vraiment mieux qu'il reste à Bordeaux.
C'est pour le pognon, tout ça.
Papa est miracle à Marseille.
C'est le meilleur joueur de Bordeaux, alors. On me perd un meilleur. Ah ouais, moi, là. On le prend très mal. Je sais pas ce qu'il va venir, l'équipe de Bordeaux. Salut. C'est le meilleur du jeu. Hein. S'il n'y a pas Giresse, l'équipe de Bordeaux, elle est nulle. Hein.
Alors, je m'en fous complètement. Vous pouvez me croire.
L'arrivée d'Alain Giresse à Marseille est un coup énorme pour le nouveau président de l'OM. Et Giresse, lui, semble déchiré par ce transfert.
Alain, j'ai presque l'impression que c'est une déchirure.
Bon, mais c'est certainement une situation que j'ai jamais connue avant. Je pensais que, une fois la décision prise, j'allais enfin être calme. Et puis je vois que, au contraire, c'est beaucoup de tourments qui, en ce moment, m'assaillent. Alors j'essaye de me maîtriser, de faire face. C'est comme ça, il y a des moments dans la vie, bon, ben, faut faire un choix, il est fait, et puis bon, j'espère que le temps permettra de manager tout ça.
Au moment où Bernard Tapie prend les rênes de l'OM, il est au sommet de sa gloire. Et d'ailleurs, il a sa propre émission sur TF1, Ambition.
Bonsoir, merci d'être avec nous en direct du magnifique Palais des Sports de Grenoble. Je vous présente Ambition de Grenoble.
Jamais de temps pour changer. Fais ta révolution et contre vents et marées, défends tes ambitions.
Dans Ambition, Bernard Tapie distille son savoir aux jeunes Français qui veulent monter leur entreprise. On ne l'arrête pas. Après le foot et la télé, il crée sa propre école de commerce.
Oui, on sent que ce sont des gosses de la crise. Il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de rêve, il n'y a pas de fantasme. Alors qu'à 18 ans, 19 ans, on a le droit de rêver, on a le droit de déconner. Eux, non. Ils s'obligent déjà à répondre comme des adultes. Donc, il y a un vrai problème qui est atterrant.
Les jeunes qui postulent à cette toute première école Bernard Tapie sont charmés par le personnage.
L'image qu'on a du PDG, c'est le mec en costard avec la CX, le chauffeur et tout, et puis on va débarquer Tapie, Playboy. 40 balais qui draguent nos copines et qui s'intéressent aux jeunes, quoi. Et puis, de toutes les manières, les jeunes, c'est l'avenir, c'est nous. Demain, c'est nous, c'est pas eux.
C'était ZZ Top avec Ralph Boy en 1986.
1986, on de la raconte sur Europe 1.
Le 21 février 1986, disparaît le doyen de l'humanité, un japonais d'1m42 qui a connu 71 gouvernements japonais différents. Il a été le premier humain à vivre au-delà de 116 ans.
L'homme le plus vieux du monde, un japonais de 120 ans, est décédé aujourd'hui paisiblement sur une petite île au sud du Japon, là où il était né le 29 juin 1865. Monsieur Isumi était régulièrement fêté et on ne manquait jamais de lui demander le secret de sa longévité. Il répondait « levé à 5 heures du matin » et un petit coup de chouchou, c'est-à-dire de l'alcool de canne à sucre à chaque dîner. Il appelait cela le secours de la grâce divine.
Chez nous, en 1986, Jeanne Calment devient la doyenne des Français. Elle a 111 ans. Elle est née et vit toujours dans les Bouches-du-Rhône. Jeanne Calment devient une fierté française.
Jeanne Calment est la doyenne des Français et cela ne l'impressionne pas. Elle trouve tout à fait normal d'avoir cet âge. Légèrement sourde, des difficultés de vision, Jeanne Calment respire la joie de vivre, bonne vivante et pleine d'humour. Cette vieille dame coule depuis un an des jours heureux dans une maison de repos d'Arles après avoir connu tant de choses dans sa vie.
Rendez-vous compte, Jeanne Calment est née sous la présidence de Patrice de MacMahon le 21 février 1875 à Arles. Elle avait 63 ans au début de la Seconde Guerre mondiale et 93 ans quand l'homme a marché sur la Lune. Mais l'événement qui a le plus marqué la centenaire est survenu en 1888, quand à 13 ans, elle a rencontré un célèbre client de la boutique de son papa.
Oui, dans le cul, dans Gog.
Et devant Gog, de vous vous rappelez de quoi?
Vous avez gardé un souvenir désagréable parce qu'il est très laid et mal gracieux. Et on sent le caractère. Il venait au magasin pour acheter des toiles pour ses tableaux. Alors, comme il fallait plusieurs graines de toile, il était très difficile. Alors, quand c'était les employés, il les remballait, les employés ne voulaient plus le servir. Alors, c'était mon mari qui les servait, il était patient. Alors, il lui sortait toutes les graines de toile qu'il fallait pour faire ses peintures.
En 1986, les Français découvrent le dynamisme de Jeanne Calment et ses secrets de longévité. Une cigarette par jour après le repas, un petit verre de Porto de temps à autre, et toujours une belle répartie.
Et de Monsieur Mitterrand, là, vous regardez quelle image?
C'est-à-dire qu'il a le caractère de la Rivisse. C'est le prototype de la Rivisse. Patience et longueur de temps. Tant plus que force ni courage. Et la patience lui a réussi, un peu tard, mais il est arrivé. Ça, c'est vraiment le type, le prototype de la Rivisse. Il est arrivé, tant mieux pour lui.
Alors que Jeanne Calment devient célèbre, son notaire mesure combien il a manqué de flair. Parce qu'il y a 26 ans, il a eu la brillante idée d'acheter la maison de Jeanne en viager. Et 9 ans plus tard, il est mort, sans jamais avoir profité de sa maison. La doyenne des Français, elle, deviendra la doyenne de l'humanité et elle s'éteindra à 122 ans, record jamais battu.
1986, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1986, l'industrie du disque vit un moment historique. Pour la première fois, les ventes de compact disques, le CD, dépassent les ventes de vinyle. Et l'un des plus gros cartons de 1986 est cette chanson, Les Démons de Minuit, du groupe Image, qui reste 13 semaines en tête du top 5. Dans le vidéoclip de cette chanson, un prêtre se bourre la gueule, accoudé à l'autel de son église, avant de se faire tuer à coups de talon aiguille. Monseigneur Di Falco, qui est le porte-parole des évêques, s'en désole sur Europe 1.
Ce qui choque, c'est la mise en scène qui est faite, c'est que ça se passe dans une chapelle transformée en nightclub, avec un prêtre complètement ivre. Une femme, bon, j'ai pas besoin de vous décrire comment, qui simule une crucifixion sur l'autel, enfin qu'un certain nombre de choses qui font que qu'on peut pas admettre ça sans rien dire.
Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de manquer un peu d'humour ?
Il n'y a pas d'humour là-dedans, vous savez.
Qu'est-ce que vous demandez exactement à la direction d'Antenne 2 et plus généralement aux chaînes de télévision françaises qui ont diffusé ce clip ?
Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'il ne repasse pas. Mais en tout cas, ce qui paraît très normal, c'est que quelque chose soit dit aux téléspectateurs qui ont été choqués, offensés par le passage de ce clip. On parle constamment des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça passe aussi par le respect des croyances, quelles qu'elles soient.
L'autre tube de 1986 s'appelle « Comme un ouragan ». Cette chanson a été refusée par Jeanne Mas et par Sheila. Et finalement, c'est la princesse Stéphanie de Monaco qui se lance dans la chanson avec ce titre. Je diffuse le titre en boucle. Et le 5 avril 1986, Comme un ouragan entre au top 50 où il restera à la première place pendant 10 semaines. Stéphanie de Monaco ne s'attendait absolument pas à ce succès. Son équipe n'a même pas prévu de vidéoclip.
Quand tout a commencé, c'était quoi, des filles, l'envie de faire ça, simplement?
Non, je crois, un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de faire des tests de voix en studio pour Ouragan, et puis ça s'est trouvé que les tests de voix ont plu, et qu'on a cru que je pouvais chanter. Mais à aucun moment, je pensais avoir un double disque d'or, ça jamais.
Vous avez le virus, maintenant?
Ah, maintenant, oui, c'est vraiment une passion, et je continue, là, j'enregistre un album qui sortira en septembre, et j'espère pouvoir continuer dans ce métier très longtemps.
Bon, ce sera le seul succès de la princesse chanteuse. Et si Jeanne Mas a refusé d'interpréter comme un ouragan, c'est notamment parce qu'elle avait ce titre dans sa poche, en roux et noir.
Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. En rouge.
Jeanne Mas en 1986 avec En rouge et noir qui restera 2 semaines en tête du top 50. Ah bah nous voilà au bout de ce premier épisode. Le numéro d'aujourd'hui était concocté avec Guillaume Vasseau. Coucou à Laetitia Casanova aux archives sonores d'Europe 1. La suite de notre exploration de l'année 1986 dans le deuxième épisode dont Delattre raconte une année.
Retrouvez On Delattre raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.